Aristote, Morale à Nicomaque, Livre 10, Suite. Chapitre 7. Sommaire. Suite de la récapitulation des théories sur le bonheur. L'acte de l'entendement constitue l'acte le plus conforme à la vertu et par suite le plus heureux. Il peut être le plus continuel. Plaisirs admirables de la philosophie. Indépendance absolue de l'entendement et de la science. Il est à lui-même son propre but. Calme et paix profonde de l'entendement. Trouble de la politique et de la guerre. L'entendement est un principe divin dans l'homme. Supériorité infinie de ce principe. Grandeur de l'homme. Le bonheur est dans l'exercice de l'intelligence. Paragraphe 1. Si le bonheur ne peut être que l'acte conforme à la vertu, il est tout naturel que ce soit l'acte conforme à la vertu la plus haute, c'est-à-dire la vertu de la partie la meilleure de notre être. Que ce soit dans l'homme, l'entendement ou telle autre partie qui, suivant les lois de la nature, paraissent faites pour commander et conduire et pour avoir l'intelligence des choses vraiment belles et divines, que ce soit quelque chose de divin en nous, ou du moins ce qu'il y a de plus divin de tout ce qui est dans l'homme, l'acte de cette partie conforme à sa vertu propre doit être le bonheur parfait. Et nous avons dit que cet acte est celui de la pensée et de la contemplation. Paragraphe 2. Cette théorie semble de tout point s'accorder et avec les principes que nous avons antérieurement établis, et avec la vérité. D'abord, cet acte est sans contredit l'acte le meilleur, l'entendement étant la plus précieuse des choses qui sont en nous, et de toutes celles qui sont accessibles à la connaissance de l'entendement lui-même. De plus, cet acte est celui dont nous pouvons le mieux soutenir la continuité, car nous pouvons penser bien plus longtemps de suite que nous ne pouvons faire quelque chose d'autre que ce soit. Paragraphe 3. D'autre part, nous croyons que le plaisir doit se mêler au bonheur, et de tous les actes conformes à la vertu. Celui qui nous charme et nous plaît davantage, c'est, de l'aveu de tout le monde, l'exercice de la sagesse et de la science. Les plaisirs que procure la philosophie semblent donc admirables, et par leur pureté, et par leur certitude. Et c'est là ce qui fait qu'il y a mille fois plus de bonheur encore à savoir qu'à chercher la science. Paragraphe 4. Cette indépendance dont on parle tant se trouve surtout dans la vie intellectuelle et contemplative. Sans doute les choses nécessaires à l'existence font besoin au sage comme à l'homme juste, comme au reste des hommes. Mais en admettant qu'ils en soient également pourvus et comblés, le juste a encore besoin de gens envers lesquels et avec lesquels il exerce sa justice. De même aussi, l'homme tempérant, l'homme courageux et tous les autres sont dans la même nécessité d'être en relation avec autrui. Le sage, au contraire, le savant, peut encore, en étant tout seul avec lui-même, se livrer à l'étude et à la contemplation. Et plus il est sage, plus il s'y livre. Je ne veux pas dire qu'il ne vaille pas mieux pour lui d'avoir des compagnons de son travail, mais le sage n'en est pas moins le plus indépendant des hommes et le plus en état de se suffire. Paragraphe 5. On dirait en outre que cette vie de la pensée est la seule qui soit aimée pour elle-même, car il ne résulte rien de cette vie que la science et la contemplation, tandis que dans toutes les choses où l'on doit agir, on poursuit toujours un résultat plus ou moins étranger à l'action. Paragraphe 6. On peut soutenir encore que le bonheur consiste dans le repos et la tranquillité. On ne travaille que pour arriver au loisir. On ne fait la guerre que pour obtenir la paix. Or, toutes les vertus pratiques agissent et s'exercent soit dans la politique, soit dans la guerre. Mais les actes qu'elles exigent paraissent ne pas laisser à l'homme un instant de relâche, spécialement ceux de la guerre, d'où le repos est absolument banni. Aussi, personne ne veut-il jamais la guerre, ou ne prépare-t-il même la guerre pour la guerre toute seule? Il faudrait être un véritable assassin pour se faire des ennemis de ses amis et provoquer à plaisir des combats et des massacres. Quant à la vie de l'homme politique, elle est aussi peu tranquille que celle de l'homme de guerre. Outre la conduite des affaires de l'État, il faut qu'il s'occupe sans cesse de conquérir le pouvoir et les honneurs, ou du moins d'assurer son bonheur personnel et celui de ses concitoyens individuellement. Car ce bonheur-là est fort différent, il est à peine besoin de le dire, du bonheur général de la société. Et nous le distinguons soigneusement dans nos recherches. Paragraphe 7. Ainsi donc, parmi les actes conformes à la vertu, ceux de la politique et de la guerre peuvent bien l'emporter sur les autres en éclat et en importance. Mais ces actes sont pleins d'agitation et ils visent toujours à un but étranger. Ils ne sont pas recherchés pour eux-mêmes. Tout au contraire, l'acte de la pensée et de l'entendement, contemplatif comme il l'est, suppose une application beaucoup plus sérieuse. Il n'a pas d'autre but que lui seul, et il porte avec lui son plaisir qui lui est exclusivement propre et qui augmente encore l'intensité de l'action. Ainsi, et l'indépendance qui se suffit, et la tranquillité et le calme, autant du moins que l'homme peut en avoir, et tous les avantages analogues qu'on attribue d'ordinaire au bonheur, semble se rencontrer dans l'acte de la pensée qui contemple. Il n'y a donc qu'elle, bien certainement, qui soit le bonheur parfait de l'homme. Mais j'ajoute, pourvu qu'elle remplisse l'étendue entière de sa vie, car aucune des conditions qui se rattachent au bonheur ne peut être incomplète. Paragraphe 8. Peut-être, d'ailleurs, cette noble vie est-elle au-dessus des forces de l'homme, ou du moins, l'homme peut vivre ainsi, non pas en tant qu'il est homme, mais en tant qu'il y a en lui quelque chose de divin. Et autant ce divin principe est au-dessus du composé auquel il est joint, autant l'acte de ce principe est supérieur à tout autre acte, quel qu'il soit, conforme à la vertu. Mais si l'entendement est quelque chose de divin par rapport au reste de l'homme, la vie propre de l'entendement est une vie divine par rapport à la vie ordinaire de l'humanité. Il ne faut donc pas en croire ceux qui conseillent à l'homme de ne songer qu'à des choses humaines et à l'être mortel de ne songer qu'à des choses mortelles comme lui. Loin de là, il faut que l'homme s'immortalise autant que possible. Il faut qu'il fasse tout pour vivre selon le principe le plus noble de tous ceux qui le composent. Si ce principe n'est rien, par la place étroite qu'il occupe, il n'en est pas moins infiniment supérieur à tout le reste, en puissance et en dignité. Paragraphe 9. C'est lui qui, à mon sens, constitue chacun de nous et en fait un individu, puisqu'il en est la partie dominante et supérieure. Et ce serait une absurdité à l'homme de ne pas adopter sa propre vie et d'aller adopter en quelque sorte celle d'un autre. Le principe que nous posions naguère s'accorde parfaitement avec ce que nous disons ici. Ce qui est propre à un être et conforme à sa nature est en outre ce qui pour lui est le meilleur et le plus agréable. Or, pour l'homme, ce qui lui est le plus propre, c'est la vie de l'entendement, puisque l'entendement est vraiment tout l'homme. Et par conséquent, la vie de l'entendement est aussi la vie la plus heureuse que l'homme puisse mener. Chapitre 8. Sommaire. Le second degré du bonheur c'est l'exercice de la vertu autre que la sagesse. La vertu morale tient parfois aux qualités physiques du corps et s'allie fort bien à la prudence. Supériorité du bonheur intellectuel. Il ne dépend presque en rien des choses extérieures. La vertu consiste à la fois dans l'intention et dans les actes. Le parfait bonheur est un acte de pure contemplation. Exemple des dieux. C'est leur faire injure que de leur supposer une autre activité que celle de la pensée. Exemple contraire des animaux. Ils n'ont pas de bonheur parce qu'ils ne pensent point. Le bonheur est en proportion de la pensée et de la contemplation. Paragraphe 1. La vie qu'on peut placer au second rang, après cette vie supérieure, c'est la vie conforme à toute vertu, autre que la sagesse et la science. Car les actes qui se rapportent à nos facultés secondaires sont des actes purement humains. Ainsi, nous faisons des actes de justice et de courage. Nous pratiquons telles autres vertus dans le commerce ordinaire de la vie. Nous échangeons avec nos semblables des services. Et nous entretenons avec eux des relations de mille sortes, comme nous cherchons aussi, en fait de sentiments, à rendre à chacun d'eux ce qui lui est dû. Mais tous ces actes-là ne semblent avoir qu'une portée toute humaine. Paragraphe 2. Il en est même quelques-uns qui paraissent ne tenir qu'à des qualités du corps. Et dans beaucoup de cas, la vertu morale du cœur se lie étroitement aux passions. Paragraphe 3. Du reste, la prudence s'allie fort bien aussi à la vertu morale, de même que cette vertu s'allie réciproquement à la prudence, car les principes de la prudence se rapportent intimement aux vertus morales. Et la règle de ces vertus se trouve tout à fait conforme à celle de la prudence. Mais les vertus morales étant de plus mêlées aux passions, elles concernent, à vrai dire, le composé qui constitue l'homme. Les vertus du composé sont simplement humaines. Par conséquent, la vie qui pratique ces vertus et le bonheur que ces vertus procurent sont purement humains. Quant au bonheur de l'intelligence, il est complètement à part. Mais je ne veux pas revenir sur ce que j'en ai dit, car pousser plus loin et préciser des détails, ce serait dépasser le but que nous nous proposons ici. Paragraphe 4. J'ajoute seulement que le bonheur de l'intelligence ne semble presque pas exiger de biens extérieurs, ou plutôt qu'il lui en faut bien moins qu'au bonheur résultant de la vertu morale. Les choses absolument nécessaires à la vie sont des conditions indispensables pour l'un et pour l'autre, et à cet égard, ils sont tout à fait sur la même ligne. Sans doute, l'homme qui se consacre à la vie civile et politique a davantage à s'occuper du corps et de tout ce qui s'y rapporte. Mais cependant, il y a toujours sur ce point assez peu de différence. Au contraire, pour les actes, la différence est énorme. Ainsi, l'homme libéral et généreux aura besoin d'une fortune pour exercer sa libéralité. Et l'homme juste n'en sentira pas moins la nécessité pour rendre mutuellement aux autres ce qu'il en a reçu. Car on ne voit pas les intentions, et les gens les plus iniques feignent bien aisément l'intention de vouloir être juste. L'homme de courage, de son côté, a besoin d'un certain pouvoir également pour accomplir les actes conformes à la vertu qui le distingue. L'homme tempérant lui-même a besoin de quelque aisance, car sans cette facilité à se satisfaire, comment saurait-on s'il est tempérant ou s'il n'est pas tout autre chose? Paragraphe 5. C'est une question de savoir si le point capital dans la vertu, c'est l'intention, ou bien si ce sont les actes, la vertu pouvant sembler se trouver à la fois des deux côtés. À mon sens, évidemment, Il n'y a de vertu complète qu'à ces deux conditions réunies. Mais pour les actions, il faut toujours bien des choses. Et plus elles sont grandes et belles, plus il en faut. Paragraphe 6. Loin de là, pour le bonheur que procure l'intelligence et la réflexion, il n'est besoin, pour l'acte de celui qui s'y livre, de rien de tout cela. On pourrait même dire que ce serait autant d'obstacles, du moins pour la contemplation et la pensée. Mais comme c'est en tant qu'on est homme et qu'on vit avec les autres qu'on s'attache à pratiquer la vertu, on aura besoin de toutes ces ressources matérielles pour jouer son rôle d'homme dans la société. Paragraphe 7. Mais voici une autre preuve que le parfait bonheur est un acte de pure contemplation. Toujours, nous supposons comme incontestable que les dieux sont les plus heureux et les plus fortunés de tous les êtres. Or, quels actes peut-on convenablement attribuer aux dieux? Est-ce la justice? Mais ne serait-ce pas en donner une idée bien ridicule que de croire qu'ils passent entre eux des conventions, qu'ils se restituent des dépôts et qu'ils ont mille autres relations du même genre? Ou peut-on davantage leur attribuer des actes de courage, le mépris des dangers, la constance dans les périls qu'ils affronteraient par honneur? Ou bien encore, leur prêtera-t-on des actes de libéralité? Dans ce cas, à qui donnerait-il? Mais alors, il faut aller jusqu'à cette absurdité de leur supposer aussi de la monnaie ou des expédients tout aussi relevés. D'autre part, s'ils sont tempérants, quel beau mérite pour eux! Et n'est-ce pas les louer très grossièrement que de dire qu'ils n'ont pas de honteuses passions? En parcourant ainsi le détail des actions que l'homme peut faire, toutes véritablement sont bien petites pour les dieux et tout à fait indignes de leur majesté. Cependant, le monde entier croit à leur existence. Par conséquent, on croit aussi qu'ils agissent, car apparemment, ils ne dorment pas toujours, comme en dormillon. Mais si, de l'être vivant, on retranche l'idée d'agir, et à plus forte raison, l'idée de faire quelque chose d'extérieur, que lui reste-t-il encore, si ce n'est la contemplation? Ainsi donc, l'acte de Dieu, qui l'emporte en honneur, sur tout autre acte, est purement contemplatif. Et l'acte qui, chez les humains, se rapproche le plus intimement de celui-là, est aussi l'acte qui leur assure le plus de félicité. Paragraphe 8. Ajoutez encore cette autre considération, que le reste des animaux ne participe pas au bonheur parce qu'ils sont absolument incapables et privés de cet acte. Pour les dieux, l'existence tout entière est heureuse. Pour les hommes, elle n'est heureuse que dans la mesure où elle est une imitation de cet acte divin. Et pour les autres animaux, pas un n'a de part au bonheur, parce que pas un ne participe à cette faculté de la pensée et de la contemplation. Aussi loin que va la contemplation, aussi loin va le bonheur. Et les êtres qui sont les plus capables de réfléchir et de contempler sont aussi les plus heureux. Non point indirectement, mais par l'effet même de la contemplation, car elle est en soi d'un prix infini. Et je me résume en disant que le bonheur peut être regardé comme une sorte de contemplation. Chapitre 9. Sommaire. Le bonheur suppose un certain bien-être extérieur, mais ce bien-être est très limité. La position la plus modeste n'empêche ni la vertu ni le bonheur. Opinion de Solon. Opinion d'Anaxagore. Il faut ne croire les théories que quand elles s'accordent avec les faits. Grandeur du sage, il est l'ami des dieux, il est le seul heureux. Paragraphe 1. Cependant, comme on est homme, on a besoin aussi, pour être heureux, du bien-être extérieur. La nature de l'homme, prise en elle-même, ne suffit pas pour l'acte de la contemplation. Il faut en outre que le corps se porte bien, qu'il ait les aliments indispensables et qu'il reçoive tous les soins qu'il exige. Pourtant, il ne faudrait pas aller croire que l'homme, pour être heureux, ait besoin de bien des choses et de bien grandes ressources, quoique de fait, il ne puisse pas être complètement heureux sans ses biens extérieurs. La suffisance de l'homme est bien loin d'exiger l'excès, non plus que l'usage des biens qu'il possède, non plus que son activité. Paragraphe 2. Il est possible de faire les plus belles actions sans être le dominateur de la terre et des mers, puisque l'on peut même, dans les conditions les plus modestes, agir, suivant la vertu. On peut voir ceci bien clairement en remarquant que les simples particuliers ne semblent pas se conduire moins vertueusement que les hommes les plus puissants, et qu'ils se conduisent même en général beaucoup mieux. Il suffit d'avoir les ressources fort limitées que nous venons de dire, et la vie sera toujours heureuse quand on prendra la vertu pour guide de sa conduite. Paragraphe 3. Solon, peut-être, avait fort bien défini les gens heureux en disant que ce sont ceux qui, médiocrement pourvus des biens extérieurs, savent faire les plus nobles actions et vivre avec tempérance et sagesse. C'est qu'en effet, comme il le pensait, on peut, tout en ne possédant qu'une très médiocre fortune, remplir tous ses devoirs. Anaxagore, non plus, ne semblait pas supposer que l'homme heureux fût l'homme riche ou puissant, quand il disait qu'il ne s'étonnerait pas du tout de paraître absurde aux yeux du vulgaire, car le vulgaire ne juge que sur les choses du dehors, parce qu'il ne comprend que celles-là. Paragraphe 4. Ainsi, les opinions des sages paraissent d'accord avec nos théories, qui sans doute reçoivent par là un nouveau degré de probabilité. Mais quand il s'agit de la pratique, la vérité se juge et se reconnaît d'après les actes seuls et d'après la vie réelle, car c'est là le point décisif. On fera donc bien, en étudiant toutes les théories que je viens d'exposer, de les confronter avec les faits eux-mêmes et avec la vie pratique. Quand elles s'accordent avec la réalité, on peut les adopter. Si elles ne s'accordent pas avec elles, il faut les soupçonner de n'être que de vains raisonnements. Paragraphe 5. L'homme qui vit et agit par son intelligence et qui la cultive avec soin me paraît à la fois et le mieux organisé des hommes est le plus cher aux dieux. Car si les dieux ont quelques soucis des affaires humaines, comme je le crois, il est tout simple qu'ils se plaisent à voir surtout dans l'homme ce qu'il y a de meilleur et ce qui se rapproche le plus de leur propre nature, c'est-à-dire l'intelligence et l'entendement. Il est tout simple qu'en retour, ils comblent de leurs bienfaits ceux qui chérissent et honorent avec le plus de zèle ce divin principe comme des gens qui soignent ce que les dieux aiment et qui se conduisent avec droiture et noblesse. Paragraphe 6. Que cette part soit surtout celle du sage, c'est ce qu'on ne saurait nier. Le sage est particulièrement cher aux dieux. Par suite encore, c'est lui qui me paraît le plus heureux des hommes. Et j'en conclus que le sage est le seul qui soit, en ce sens, aussi parfaitement heureux qu'on peut l'être. Chapitre 10. Sommaire. Impuissance des théories. Importance de la pratique. Opinion de Théognis. La raison ne parle qu'au petit nombre. Les multitudes ne peuvent être conduites et corrigées que par la crainte des châtiments. Influence de la nature. Nécessité d'une bonne éducation, elle ne peut être réglée que par la loi. Sage conseil donné au législateur par Platon. Emploi simultané de la pratique et de la force. La loi seule a la puissance de commander efficacement. Éducation publique, éducation particulière, utilité des règles générales et de la science, l'expérience. Rôle admirable du législateur. Métier peu utile et peu honorable des sophistes qui enseignent la politique. Elle est indispensable. Les études théoriques sur les constitutions peuvent être de quelque utilité. Recueil des constitutions. Liaison de la morale à la politique. Annonce de la politique d'Aristote faisant suite à sa morale. Paragraphe 1. Si nous avons suffisamment précisé dans ces esquisses les théories qu'on vient de voir et celles des vertus, de l'amitié et du plaisir, devons-nous croire que maintenant nous ayons achevé toute notre entreprise? Ou plutôt, ne devons-nous pas penser, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, que dans les choses de pratique, la fin véritable n'est pas de contempler et de connaître théoriquement les règles en grand détail, c'est de les appliquer réellement. Paragraphe 2. En ce qui regarde la vertu, il ne peut pas suffire non plus de savoir ce qu'elle est. Il faut en outre s'efforcer de la posséder et de la mettre en usage, ou de trouver tel autre moyen pour devenir vertueux et bon. Paragraphe 3. Si les discours et les écrits étaient capables à eux seuls de nous rendre honnêtes, ils mériteraient bien, comme le disait Théognis, d'être recherchés par tout le monde et payés au plus haut prix. On n'aurait qu'à se les procurer. Mais par malheur, tout ce que peuvent les préceptes en ce genre, c'est de déterminer et de pousser quelques jeunes gens généreux à persévérer dans le bien et de faire d'un cœur bien né et spontanément honnête un ami inébranlable de la vertu. Paragraphe 4. Mais pour la foule, les préceptes sont absolument impuissants pour la pousser au bien. Elle n'obéit point par respect mais par crainte. Elle ne s'abstient pas du mal par le sentiment de la honte, mais par la terreur des châtiments. Comme elle ne vit que de passion, elle ne poursuit que les plaisirs qui lui sont propres et les moyens de se procurer ces plaisirs. Elle s'empresse de fuir les peines contraires. Mais quant au beau, quant au vrai plaisir, elle ne s'en fait pas même une idée parce qu'elle ne les a jamais goûtés. Paragraphe 5. Quel discours, je le demande, quel raisonnement pourrait corriger ces natures grossières? Il n'est pas possible, ou du moins il n'est pas facile, de changer par la simple puissance de la parole des habitudes dès longtemps sanctionnées par les passions. Et l'on ne doit pas être médiocrement satisfait quand, avec toutes les ressources qui peuvent aider l'homme à être honnête, on arrive à posséder la vertu. Paragraphe 6. Les hommes, à ce qu'on prétend, deviennent et sont vertueux tantôt par nature, tantôt par habitude, tantôt enfin par éducation. Quant à la disposition naturelle, elle ne dépend pas de nous, évidemment. C'est par une sorte d'influence toute divine qu'elle se rencontre dans certains hommes qui ont vraiment, on peut dire, une chance heureuse. D'un autre côté, la raison et l'éducation n'ont pas prise sur tous les caractères. Et il faut qu'on ait préparé de longue main l'âme de l'élève pour qu'il sache bien placer ses plaisirs et ses haines comme on prépare la terre qui doit nourrir le germe qu'on lui confie. Paragraphe 7. L'être qui ne vit que par la passion ne peut pas écouter la voix de la raison qui le détourne de ce qu'il désire. Il ne peut même pas la comprendre. Comment retenir et dissuader un homme qui est dans cette disposition? La passion en général n'obéit pas à la raison. Elle ne cède qu'à la force. Paragraphe 8. Ainsi, la première condition, c'est que le cœur soit naturellement porté à la vertu, aimant le beau et détestant le laid. Mais il est bien difficile qu'on soit dirigé convenablement dès son enfance vers la vertu si l'on n'a pas le bonheur d'être élevé sous de bonnes lois. Une vie tempérante et rude n'est rien moins qu'agréable à la plupart des hommes, ni surtout à la jeunesse. Aussi est-ce par la loi qu'il faut régler l'éducation des enfants et leurs travaux. Car ces prescriptions ne seront plus pénibles pour eux quand elles seront devenues des habitudes. Paragraphe 9. Il ne suffit même pas que les hommes, dans leur jeunesse, reçoivent une bonne éducation et une culture convenable. Mais comme il faut, quand ils seront arrivés à l'âge viril, qu'ils continuent cette vie et qu'ils s'en fassent une habitude constante, nous aurons besoin de nouveau, pour atteindre ce résultat, du secours des lois. En un mot, il faut que la loi suive l'homme durant son existence entière, car la plupart des hommes obéissent bien plutôt à la nécessité qu'à la raison et au châtiment plutôt qu'à l'honneur. Paragraphe 10. Aussi, l'on a bien fait de penser que les législateurs doivent attirer les hommes à la vertu par la persuasion et les y engager simplement au nom du bien, assurer que le cœur des honnêtes gens, préparé par de bonnes habitudes, entendra cette voix, mais qu'ils doivent en outre décréter des répressions et des châtiments contre les hommes rebelles et corrompus, et même débarrasser complètement l'État de ceux qui sont moralement incurables. On ajoute tout aussi sagement que l'homme qui est honnête et qui ne vit que pour le bien se rendra sans peine à la raison, tandis qu'il faudra châtier par la douleur l'homme pervers qui ne songe qu'au plaisir, comme on frappe une bête brute sous le joug. Et voilà aussi pourquoi on recommande de choisir, parmi les châtiments qu'on impose, ceux qui sont les plus opposés au plaisir que le coupable aime avec tant d'aveuglement. Paragraphe 11. Si donc il faut, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, que l'homme, pour devenir un jour vertueux, ait d'abord été bien élevé et qu'il ait contracté de bonnes habitudes, s'il faut qu'ensuite il continue de vivre dans de louables occupations sans jamais faire le mal, ni de gré ni de force, ces résultats admirables ne peuvent toujours être obtenus que si les hommes y sont contraints par une certaine direction d'intelligence, ou par un certain ordre régulier qui a la puissance de se faire obéir. Paragraphe 12. Le commandement d'un père n'a pas ce caractère de force ni de nécessité, non plus en général que le commandement d'un homme seul, à moins que cet homme ne soit roi, ou qu'il n'ait quelque dignité pareille. Il n'y a que la loi qui possède une force coercitive égale à celle de la nécessité, parce qu'elle est l'expression, dans une certaine mesure, de la sagesse et de l'intelligence. Quand ce sont des hommes qui s'opposent à nos passions, on les déteste, eussent-ils mille fois raison de le faire. Mais la loi ne se rend pas odieuse en ordonnant ce qui est juste et honnête. Paragraphe 13. Lacédémone est le seul État, on peut dire, où le législateur peut imiter en cela, paraît avoir pris un grand soin de l'éducation des citoyens et de leurs travaux. Dans la plupart des autres États, on a négligé ce point essentiel, et chacun y vit comme il l'entend, gouvernant sa femme et ses enfants à la façon des cyclopes. Paragraphe 14. Le mieux serait que le système de l'éducation fût public, en même temps que sagement conçu, et qu'on se trouvât soi-même en mesure de l'appliquer. Partout où ce soin commun est négligé, chaque citoyen doit se faire un devoir personnel de pousser à la vertu ses enfants et ses amis, ou du moins, il doit en avoir la ferme intention. Le vrai moyen de se mettre en état de remplir ce devoir, c'est, d'après ce que je viens de dire, de se faire législateur soi-même. Quand le soin de l'éducation est public et commun, ce sont évidemment les lois seules qui peuvent y pourvoir. Et l'éducation est ce qu'elle doit être, lorsqu'elle est réglée par de bonnes lois, que ces lois d'ailleurs soient écrites ou ne le soient pas. Il importe également fort peu qu'elle statue sur l'éducation d'un seul individu ou celle de plusieurs. Pas plus qu'on ne fait cette distinction pour la musique, pour la gymnastique ou pour toutes les autres études auxquelles on applique les enfants. Mais si dans les États, ce sont les institutions légales et les mœurs qui ont ce pouvoir, ce sont dans le sein des familles les paroles et les mœurs des pères qui doivent l'exercer. Et même, leur autorité doit y être plus grande encore, puisqu'elle ne leur vient que des liens du sang et des bienfaits. Car le premier sentiment que la nature inspire aux enfants, c'est l'amour et l'obéissance. Paragraphe 15. Il est encore un point sur lequel les éducations particulières l'emportent sur l'éducation commune. Et l'exemple de la médecine nous fera bien comprendre ceci. En général, quand on a la fièvre, la diète et le repos sont un excellent remède. Mais il peut y avoir tel tempérament auquel ce remède ne convient pas, de même qu'un lutteur n'oppose pas les mêmes coups et le même jeu à tous ses adversaires. De même aussi, quand l'éducation est particulière, le soin qui s'applique alors spécialement à chaque individu semble avoir quelque chose de plus achevé, puisque chaque enfant reçoit personnellement le genre de soin qui lui convient davantage. Mais les soins les meilleurs, même dans un cas individuel, sont toujours ceux que donne ou le médecin, ou le gymnaste, ou tel autre maître, quand ce maître connaît les règles générales, et qu'il sait que telle chose convient à tout le monde, ou du moins à tous ceux qui sont dans telles ou telles conditions. Car les sciences ne tirent leur nom que du général, de l'universel, et ne s'occupent en effet jamais que de lui. Paragraphe 16. Je ne nie pas d'ailleurs que même en étant fort ignorant, on ne puisse aussi traiter avec succès tel cas particulier, et qu'à l'aide de l'expérience toute seule, on ne réussisse parfaitement. Il suffit d'avoir observé avec exactitude les phénomènes que chaque cas présente. Et c'est ainsi qu'on voit des gens qui sont pour eux-mêmes d'excellents médecins et qui ne pourraient absolument rien contre les souffrances d'un autre. Néanmoins, quand on veut devenir sérieusement habile en pratique et en théorie, il faut aller jusqu'au général, jusqu'à l'universel, et le connaître aussi profondément que possible. Car, ainsi qu'on l'a dit, c'est à l'universel que se rapportent toutes les sciences. Paragraphe 17. Quand on veut améliorer les hommes par les soins qu'on leur donne, que ce soit d'ailleurs une multitude ou un petit nombre, il faut d'abord viser à se faire législateur, puisque c'est par les lois que l'humanité devient meilleure. Mais ce n'est pas une œuvre vulgaire que de bien conduire l'être, de quelque genre que ce soit, qui est confiée à nos soins. Et si quelqu'un peut accomplir cette tâche difficile, c'est surtout celui qui possède la science, comme dans la médecine par exemple, et dans tous les autres arts, où il faudrait à la fois des soins et de la réflexion. Paragraphe 18. Comme conséquence de ceci, faut-il que nous recherchions comment et à quelle source on pourrait acquérir le talent de législateur? Dois-je répondre? C'est en faisant ici comme pour toute autre science, c'est-à-dire en s'adressant aux hommes politiques, puisque ce talent législatif, à ce qu'il semble, est aussi une partie de la politique. Ou bien, ne devons-nous pas dire qu'il n'en est pas de la politique comme des autres sciences et des autres espèces d'études? Dans les autres sciences, ce sont les mêmes personnes qui enseignent les règles pour bien faire et qui les appliquent, témoins les médecins et les peintres. Quant à la politique, ce sont les sophistes qui se vantent de la bien enseigner. Mais pas un d'eux n'en fait, et elle est réservée aux hommes d'État qui semblent s'y livrer par une sorte de puissance naturelle et la traiter par l'expérience bien plutôt que par la réflexion. Ce qui le prouve, c'est qu'on ne voit jamais les hommes d'État ni écrire ni parler de ces sujets, bien que peut-être ils y trouvassent plus d'honneur que n'en donnent les harangues devant les tribunaux, devant le peuple. On ne voit pas non plus que ces personnages fassent des hommes politiques de leurs propres enfants ou de quelques-uns de leurs amis. Paragraphe 19. Il est bien probable pourtant qu'ils n'eussent pas manqué de le faire s'ils le pouvaient, car ils ne sauraient laisser un héritage plus utile aux États qu'ils gouvernent. Et ils ne pourraient trouver, ni pour eux-mêmes, ni pour ceux qui leur sont les plus chers, rien de supérieur à ces talents. Je reconnais d'ailleurs que l'expérience est ici d'une grande utilité, car autrement, ils ne deviendraient pas des hommes d'État plus habiles à bien gouverner par la longue habitude du gouvernement. Ainsi donc, quand on veut s'instruire dans la science politique, on a besoin, ce semble, d'y joindre la pratique à la théorie. Paragraphe 20. Mais les sophistes, qui font tant de bruit de leur prétendue science, sont fort loin d'enseigner la politique. Ils ne savent précisément ni ce qu'elle est, ni ce dont elle s'occupe. S'ils s'en rendaient bien compte, ils ne l'auraient pas confondue avec la rhétorique, ni surtout ravalée même au-dessous. Ils ne pourraient pas croire davantage qu'il fût aisé de faire un bon code de loi en rassemblant toutes celles qui ont le plus de renommée et en faisant un choix des meilleures. On dirait à les entendre que le choix n'est pas lui-même un acte de haute intelligence et que, bien jugé, n'est pas ici le point capital, tout comme dans la musique. En chaque genre, les gens d'expérience spéciale sont les seuls qui jugent parfaitement les choses et qui comprennent par quels moyens et comment on arrive à les produire, comme ils en savent aussi les combinaisons et les harmonies secrètes. Quant aux gens qui n'ont pas cette expérience personnelle, ils doivent se contenter de ne pas ignorer si l'ouvrage est en gros bon ou mauvais, comme pour la peinture. Paragraphe 21. Mais les lois sont les œuvres et les résultats de la politique. Comment donc, avec leur aide, pourrait-on devenir législateur, ou du moins juger quelles sont les meilleures d'entre elles? Ce n'est pas par l'étude des livres qu'on voit les médecins se former, bien que ces livres ne se bornent pas à indiquer seulement les remèdes, mais qu'ils aillent jusqu'à les détailler, et les moyens de guérir, et la nature des soins divers qu'il faut donner à chaque maladie en particulier, d'après les tempéraments dont on analyse toutes les différences. Les livres, d'ailleurs, utiles peut-être quand on a déjà l'expérience, sont d'une inutilité complète pour les ignorants. Les recueils de lois et de constitutions pourraient bien être dans le même cas. Il me semble fort utile quand on est déjà capable de spéculer sur ces matières, de juger ce qui est bien et ce qui est mal, et de discerner les institutions qui pourraient convenir suivant les divers cas. Mais si, sans avoir cette faculté de bien les comprendre, on se met à étudier ces recueils, on sera tout à fait hors d'état de juger sainement des choses, si ce n'est par un hasard exceptionnel, quoique je ne nie pas que cette lecture ne puisse donner assez vite une intelligence plus grande encore de ces matières. Paragraphe 22. Ainsi donc, nos devanciers ayant laissé inexploré le champ de la législation, il y aura peut-être quelque avantage à l'étudier nous-mêmes et à traiter à fond de la politique, afin de compléter par là, dans la mesure de notre pouvoir, la philosophie des choses humaines. Paragraphe 23. Et d'abord, quand nous trouverons dans nos prédécesseurs quelques détails de ce vaste sujet, heureusement traité, nous ne manquerons pas de l'adopter en le citant. Et ensuite, nous verrons, d'après les constitutions que nous avons recueillies, quels sont les principes qui sauvent ou qui perdent les États en général, et en particulier chaque État divers. Nous rechercherons les causes qui font que quelques-uns sont bien gouvernés et que les autres le sont mal. Car lorsque nous aurons achevé ces études, nous verrons d'un coup d'œil plus complet et plus sûr quel est l'État par excellence et quels sont, pour chaque espèce de gouvernement, la Constitution, les lois et les mœurs spéciales qu'il doit avoir pour être en son genre le meilleur possible. Entrons donc en matière. Fin du livre 10e.